Alors Jacques Richir, adjoint au maire de Lille, président de la SEM Lille Grand Palais, qui donc appartient, bâtiment qui appartient à la ville de Lille et qui est géré par cette SEM depuis maintenant 30 ans.
Alors, tout le monde ne connaît pas le mot SEM, en fait c'est SEM et ça représente donc des entités qui sont en gros financées en majorité par les collectivités locales, territoriales, etc.
C'est ça, donc ça relève de ce qu'on appelle l'économie mixte, hein, qui veut dire que c'est un outil qui fonctionne selon des règles commerciales et compagnies de concurrence, mais dans lequel les collectivités, en général, donc soit des villes, soit des départements, soit des régions, sont majoritaires, ce qui veut dire que ça répond à des règles qu'on appelle de commande publique, mais ça permet de fonctionner en fonctionnement concurrentiel, et on comprend bien que pour accueillir des concerts dans un zénith, des congrès, des salons, il faut être dans un champ concurrentiel, mais l'avantage, par contre, c'est que ça permet de garder des règles de fonctionnement d'une grande transparence et que ça garantit que l'équipement va bien rester au service de l'intérêt général.
Donc intérêt général, c'est presque un service public.
En quelque sorte, en tout cas, on participe en tout cas du développement économique, du développement touristique et du développement culturel, hein, de la ville. Mais effectivement, on fait appel à des instances de différents domaines. Mais je crois que c'est un modèle intéressant. C'est assez français, d'ailleurs. Il n'y a pas beaucoup de pays qui ont ça à travers l'Europe. Mais je crois que c'est un peu cette mixité économique, elle est intéressante parce qu'elle permet à la fois de l'innovation, du dynamisme, la vérité économique également. Mais elle permet aussi de respecter un certain nombre de règles d'intérêt général et d'une certaine manière de service public, en quelque sorte, oui.
Et aussi, on peut, je l'imagine, adapter l'activité aux besoins des collectivités, notamment la ville de Lille et la MEL, pour ces grands projets d'avenir.
Oui, en particulier, surtout sur le plan économique pour le coup, parce que par exemple, c'est sûr qu'on a des filières économiques essentielles pour notre région. C'est le cas par exemple de tout ce qui est l'informatique, la cybersécurité, le domaine de la santé. Hein, et c'est pour ça que c'est un très bon lieu pour accueillir, à côté de notre centre hospitalier universitaire, des grands congrès internationaux de médecine, des grands congrès consacrés à l'informatique. Et sur le plan culturel, alors là, on ne vient pas doublonner on ne va pas faire de l'opéra, on ne va pas faire de l'orchestre symphonique puisqu'on a des très beaux équipements à Lille, mais par contre sur d'autres événements, bien sûr les différents concerts, mais parfois aussi des événements comme par exemple Art Up est un bon exemple où on a créé une véritable foire d'art contemporain. Aujourd'hui le privé ne peut pas accueillir des événements parce qu'on met comme à disposition 20 000 m², on accueille 110 galeries, on expose en général plus de 5000 œuvres. Personne dans le privé ne ferait ça parce que ce serait pas rentable dans le privé, et nous on arrive à le faire et les galeries s'y trouvent leur compte, et d'ailleurs les galeries qui pourtant sont tous des acteurs privés sont très contents de le trouver. Mais lorsqu'on fait Art Up, notre marque de salut, notre côté économique, c'est qu'on accueille en même temps, on donne de la place à des équipements culturels de notre région. Il y a 2 ans, on avait accueilli le Muse Vert, le musée du Vert qui avait exposé. On avait donné une place aussi à la piscine, on a donné une place de Roubaix. On met en valeur aussi des équipements culturels de la région en même temps pour que les collectionneurs découvrent aussi nos équipements.
Oui, et aussi les productions des étudiants, des futurs vedettes de l'art.
Bien sûr, on accueille un certain nombre d'étudiants qui viennent, qui font des démonstrations, l'an dernier aussi, on avait accueilli des jeunes street artistes, hein, puisqu'on a des choses de grand talent. C'est l'occasion de s'ouvrir, mais par contre, il faut avoir un esprit très, très ouvert, et en même temps, toujours veiller à ce que ça reste de qualité. C'est pour ça qu'on ne recherche pas des événements très commerciaux, dans lequel il y aurait une certaine forme de vulgarité ou de trivialité. Oui.
Vous avez un passé universitaire, me semble-t-il. Est-ce que ça vous sert, cet équipement, à la gestion ?
Oui, bien sûr, ça permet de gérer tous ces aspects-là. Le fait à titre personnel, je préside l'Institut Pasteur de Lille. Hein, et c'est vrai que on est en contact, on a la chance d'avoir 35 nationalités sur le campus, donc ça nous ouvre effectivement à toutes ces questions internationales. Puis ça permet de repérer les besoins, et parfois, par exemple, sur certaines disciplines médicales, je prends cet exemple-là, on avait des disciplines qui méritaient qu'on mette un peu plus l'accent sur ce qu'elles font, et on a pu les accueillir. C'est ainsi que, par exemple, qu'on a fortement développé l'accueil du congrès de la douleur depuis quelques années, qui vient maintenant pratiquement tous les ans. Hein, et il n'y avait pas de congrès de la douleur avant. Et on trouvait que c'était un manque. Et en lien avec la Société française de lutte contre la douleur, on a monté ce congrès il y a maintenant 7-8 ans. Et c'est devenu un événement totalement reconnu dans la discipline. Et ça, c'est une manière aussi, c'est notre contribution pour aider un petit peu cela. On accueille des colloques aussi de sociétés savantes qui ont parfois besoin qu'on les accompagne dans leur développement. Et c'est sûr qu'à ce moment-là, on les aide économiquement à le faire à des conditions qui soient acceptables pour elles, surtout ceux qui n'ont pas beaucoup de sponsors privés. On accueille, par exemple, actuellement le congrès de la Société française de santé publique. Ce n'est pas forcément un domaine dans lequel les sponsors se précipitent. Donc c'est clair que les conditions que nous leur faisons pour les accueillir sont extrêmement intéressantes. Ce n'est pas les mêmes tarifs qu'une société savante qui serait très sponsorisée.
Est-ce que vous élargissez au fil du temps votre dimension internationale ?
Alors, on y arrive dans certaines disciplines, oui. On arrive à le faire. Alors, bon, l'avantage, c'est déjà, c'est la Belgique, pour un Lillois, ce n'est pas l'international, c'est les voisins, c'est les frères. Mais on y arrive également. Puis on a quelques disciplines aujourd'hui qui permettent. Alors, par contre, dans les grands congrès internationaux, là, on tombe parfois sur une question de taille. Mm-hmm. Parce que, je prends exemple des congrès médicaux, les très grands congrès médicaux internationaux, c'est 15 à 20 000 personnes. Je vois, par exemple, des congrès qui touchent le sida, les grands congrès de cardiologie internationaux, on n'a pas la taille critique pour les accueillir.
Alors, est-ce que la MEL ou la ville de Lille pense justement à développer d'autres espaces pour pouvoir le faire ?
Il n'y a pas de projet actuellement. Alors d'abord parce qu'on utilise pleinement cet outil qui est formidable, parce que par contre, ce qui est une vraie spécificité, c'est qu'avoir construit un palais des congrès en pleine ville, à côté des gares, à côté d'un quartier du centre-ville, maintenant qu'on a enfin une capacité hôtelière importante, parce qu'il y a 15 ans, l'un des obstacles que nous avions à Lille, c'est que le nombre d'hôtels n'était pas très important. Il y a eu beaucoup d'investissements hôteliers, ce qui fait qu'aujourd'hui, quasiment, un événement qui a besoin de 4 000, 5 000 chambres, on sait les trouver à 10 km à la ronde. Et c'est vraiment fortement équipé. C'est un vrai plus. Et d'ailleurs, je pense que le fait que le palais congrès se développe a incité les groupes hôteliers à investir sur l'île, ce qui était bon à la fois pour nous, mais également pour le monde économique, entreprise. Il faut dire aussi qu'on a beaucoup accompagné le fait qu'il y ait des grands événements à Lille, sportifs et culturels. On a vu tous les exemples en tête d'une part des saisons de Lille 3000, le Tour de France, les Jeux Olympiques à Lille. Tout ça fait que ça attire beaucoup. Et donc ça a contribué. Je pense qu'on est en tout cas un des éléments qui a été un peu un moteur pour pouvoir porter ces politiques-là à côté d'autres. La force aussi de l'équipement, c'est qu'on a des liens extrêmement étroits avec les grands acteurs économiques. Par exemple, les pôles d'excellence, que ce soit Eurotechnologie, les pôles d'excellence du CHU, mais également des métiers dont on parle moins avec l'université, sur tout ce qui est, par exemple, le ferroviaire. On accueille, par exemple, le congrès européen des ingénieurs ferroviaires. Ça paraît pas, mais c'est fondamental. Valenciennes est un grand pôle dans ce domaine-là. On accueille des physiciens qui travaillent sur les matériaux, par exemple, parce qu'il y a des très belles équipes à l'université Villeneuve-d'Ascq. Voilà, ça a permis... Et là, ces congrès-là sont internationaux, mais sont des congrès très pointus. Je vous dis, les ingénieurs du ferroviaire, ils viennent de toute l'Europe, mais c'est un congrès à 1200 personnes.
Et sinon, est-ce qu'on peut imaginer plusieurs salles en Europe qui soient reliées en visioconférence et on pourrait gérer des animations avec beaucoup de public?
Alors, on l'a testé. On a d'ailleurs aujourd'hui, on a dans l'équipement, on a des salles visio. On a certains congrès qui s'ouvrent à des congressistes, entre guillemets, non pas virtuel, mais à distance. Bon, par contre, on se rend compte que rapidement, le modèle a du mal à se trouver. Le congrès, c'est quand même le lieu où les gens se rassemblent. C'est-à-dire que la dimension, et on le voit bien aujourd'hui, parce que par exemple, non pas dans le domaine des congrès, mais dans le domaine des conventions entreprises, après le Covid, le télétravail, tout ça, les entreprises s'étaient dit, on va tout faire en visio. En fait, elles sont en train de redécouvrir l'importance du contact, et nous, ça nous réjouit, du contact humain. Le fait que des entreprises comme Kiabi, Castorama, But, etc., retrouvent le Nocibé, retrouvent le besoin de rassembler 1000 ou 1200 salariés pendant 2 jours, ça prouve que les contacts humains, heureusement, restent quand même un élément essentiel et se font nettement mieux en présentiel qu'en distanciel.
Voilà, on pourrait bien sûr discuter de l'IA dans tout ça, mais l'humain, ça reste une valeur fondamentale.
Oui, l'IA, on l'utilise pour un certain nombre d'éléments, mais si vous voulez, pour aider, pour faire des simulations, mais ça ne remplace pas. Ça ne permet que d'être... on peut aller parfois plus vite pour prendre certaines décisions, faire des simulations, d'avoir des différents scénarios, mais en dernier ressort, c'est les humains qui font les choix, les bons choix, et qui accueillent. C'est ça pour nous l'essentiel.